Donc, séance du mardi 18 octobre 2022, consacrée au thème du châtiment. Alors, dans le cadre de notre réflexion sur le châtiment, puisque c'est le thème abordé cette année, je propose donc de lire l'Orestie, trilogie composée par Eschyle et représentée en 458 avant Jésus-Christ, à Athènes. Et, comme je vous le disais, l'Orestie est la seule trilogie qui nous soit restée, que la plupart des tragédies étaient une partie d'une trilogie. Par exemple, les Perses, ça fait partie d'une trilogie, mais il ne nous reste que les Perses. Alors, pourquoi lire l'Orestie? En quoi cette lecture est-elle utile à une réflexion sur le châtiment? Eh bien, je dirais qu'elle est utile à deux titres. Elle nous permet d'abord de prendre de la distance à l'égard des sociétés comme la nôtre, dont les rapports humains sont régis par le droit, où les crimes sont jugés et les châtiments sont décidés dans le cadre d'un tribunal. Nous sommes tellement habitués à la procédure juridique qu'elle nous paraît aller de soi et que nous ne prêtons guère attention à son caractère insolite. Et pourtant, comme nous l'apprennent aussi bien l'histoire que l'ethnologie et aussi le théâtre antique, ce système juridique n'a rien de constant et d'universel. Notre proximité avec lui est en fait un obstacle qui nous empêche d'en saisir la spécificité. Par ailleurs, en nous confrontant à l'existence d'un autre mode de régulation des conflits que celui du droit pénal, qui est le nôtre, c'est-à-dire en nous confrontant à ce qu'on peut appeler une situation pré-juridique, pré-politique, eh bien, la lecture de l'Orestie permet aussi de réfléchir à la crise historique qu'une société comme celle d'Athènes, au Ve siècle, a dû traverser pour rompre avec ce mode d'existence et donner naissance au droit. Aussi, la question est ici de savoir quand et comment apparaît le droit, quand apparaît le jugement proprement juridique, c'est-à-dire celui qui évalue la culpabilité d'un criminel et se prononce sur son châtiment. C'est-à-dire quand ce jugement apparaît-il ? En tant qu'il est l'expression de la souveraineté collective de la cité. En tout état de cause, la lecture de l'Orestie nous permettra de comprendre en quoi l'avènement du droit est une remarquable conquête rationnelle, puisqu'il revient à substituer à la violence un règlement pacifique des conflits. Alors, que montre en effet l'Orestie, c'est ce que nous allons voir, elle met en scène le grand pas qui conduit de l'inexorable enchaînement sans fin de la violence, celle qui se prévaut de la loi de vengeance, qui était une loi sacrée, à l'avènement de la justice de la cité organisée en espace politique. Donc en instituant un tribunal judiciaire chargé de juger les affaires criminelles et de prononcer les châtiments, eh bien, la cité met un terme à la logique infernale de la vengeance. Alors, quelques mots rapides de présentation de l'Orestie. Le lieu de l'action, c'est la maison des Atrides, à Argos. Et cette maison apparaît comme un espace donc pré-juridique, pré-politique, soumis à d'autres règles que celles qui régiront la cité, comme organisation politique. C'est-à-dire ce sont les règles d'une justice privée qui s'affirment comme des règles religieuses. Comme je l'ai dit, l'Orestie est une trilogie. Sa première partie a pour titre Agamemnon, du nom du général en chef qui a commandé les armées grecques et a vaincu Troie. Hein, vous connaissez l'Iliade. Cette première partie traite de l'assassinat d'Agamemnon par son épouse Clytemnestre. La deuxième partie, bah, c'est la pièce qui a pour titre « Les coéphores ». Coéphores, c'est les porteuses de libation, hein, pour les morts. Voilà ce que ça signifie. Alors, il y est question de la vengeance d'Oreste, c'est-à-dire le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, puisqu'Oreste va tuer sa mère pour venger son père. Et la troisième et dernière pièce a pour titre « Les Euménides », qui montre comment l'institution de l'aréopage, d'un tribunal, par la déesse Athéna, permet de sortir donc du cycle infernal de la vengeance qui régnait jusqu'alors. Alors, s'il est vrai qu'il y a des rapports entre l'Orestie et les événements qui se déroulent au Ve siècle à Athènes, la tragédie n'est pas pour autant l'expression contingente d'événements politiques qu'elle se contenterait de relater. Elle n'est pas non plus, pour les Grecs anciens, une simple production esthétique, un spectacle. Ils ne vont pas comme nous au théâtre, simplement pour se divertir ou même éprouver un plaisir esthétique. La tragédie est pour eux beaucoup plus qu'une forme d'art. C'est une véritable institution qui prend une part active dans l'élaboration de la nouvelle pensée juridique. Et à ce titre, son existence est indissociable de l'avènement du droit et de l'ordre politique de la cité. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour mieux comprendre la fonction de la tragédie, il importe d'abord de rappeler brièvement quelques éléments historiques concernant le Ve siècle à Athènes, puisque, comme je vous l'ai dit, l'Orestie est représentée en 458, c'est-à-dire, au fond, peu après les guerres médiques qui ont opposé les cités grecques à la Perse, hein, de Darius et de Xerxès. Hein, les cités grecques ont réussi, ont vaincu cet empire extrêmement puissant qui était celui de la Perse, en s'unissant. Et là, c'est à ce moment-là qu'Athènes, hein, est la cité qui va prédominer, hein, sur les autres. Elle va même, d'une certaine manière, prendre une certaine supériorité par rapport à Sparte, qui était une grande cité militaire. Alors, premier point très important, les tragédies grecques n'étaient pas destinées à un public d'amateurs de théâtre, hein, mais c'était quelque chose de destiné au corps civique tout entier. Et tous les ans, dans la deuxième quinzaine de mars, les Athéniens célébraient les Grandes Dionysies. Les Grandes Dionysies, c'est à ce moment-là que les cités de la Confédération de Délos, Confédération des cités grecques, dirigées par Athènes, devaient apporter à Athènes leur contribution. Parce que Athènes était devenue la grande cité dominante, assez impérialiste, et elle exigeait des autres cités qu'elles participent à un impôt. Vous voyez ? Sinon, il y avait des mesures de rétorsion. La ville se remplissait alors d'étrangers, les métèques, et toute cette affluence faisait un public plus large que d'ordinaire. Les Grandes Dionysies commençaient par le retour solennel de la statue de bois du dieu Dionysos. Elles se poursuivaient par des sacrifices, des festins, des défilés. Elles se terminaient par des représentations de comédies et de tragédies. Un concours de tragédie avait lieu sur 3 jours. Les poètes qui désiraient participer au concours devaient remettre leur texte au grand magistrat qui présidait aux fêtes, l'archonte éponyme, et celui-ci opérait une présélection et ne retenait que 3 poètes. Un peu comme le jury de Cannes, si vous voulez. Alors, le concours de tragédie opposait donc 3 candidats sérieux. Chaque poète disposait d'une journée entière et représentait souvent une trilogie. Une trilogie, un enchaînement de trois tragédies, tout au long de cette journée. À l'issue du concours, un jury décernait un prix au meilleur poète. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'Eschyle a remporté 13 victoires. C'est le plus ancien, hein, de ceux qu'on connaît. Sophocle, 18. Euripide, 4. Et là, je ne vous cite que les poètes dont on a retenu le nom, parce que imaginez bien qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y a des œuvres extraordinaires que nous avons, enfin, qui ont complètement disparu, hein, qui étaient peut-être aussi remarquables que celles que je vous cite. Alors, on commençait à jouer très tôt le matin, car il fallait qu'il fasse jour, pendant toute la durée du spectacle, et il est probable que les deux tiers des citoyens présents, qui étaient très très nombreux, n'entendaient rien. Ben oui, mais ils pouvaient voir les acteurs. Alors, ils n'entendaient rien malgré les conditions acoustiques de ces, hein, de ces théâtres. Hein, comme, je ne sais pas si vous êtes allé au théâtre d'Épidaure, ben c'est remarquable. Hein. Mais même malgré ça, effectivement, il y avait un certain nombre de spectateurs qui ne pouvaient pas entendre. Maintenant, ils pouvaient voir ce qui se passait. Alors, ces précisions sont indispensables pour montrer que les tragédies n'étaient pas réductibles à de simples spectacles, mais constituaient une institution tout aussi essentielle à la cité que les assemblées où se prenaient les décisions politiques. Et sur ce point, je recommande la lecture des travaux de Jean-Pierre Vernant, donc « Mythes et tragédies dans la Grèce ancienne », et puis aussi ceux de l'Allemand Christian Mayer, La naissance du politique. Alors, comme le montre Jean-Pierre Vernant, la tragédie est une institution sociale. Je vous ai photocopié le texte, vous le lirez à tête reposée. C'est une institution sociale par le moyen de laquelle, je cite, « la cité se fait théâtre et se prend en quelque sorte comme objet de représentation et se joue elle-même devant le public. » C'est dans l'extrait photocopié que je vous ai donné. Puis aussi, comme l'écrit Vernant, comme il l'écrit, la tragédie ne reflète pas simplement la réalité sociale, elle la met en question. Elle la met en question en la présentant déchirée, divisée contre elle-même. Et là, c'est assez remarquable. Alors que Athènes pourrait faire sa propagande devant la Grèce entière, par son théâtre. Eh bien, au contraire, elle se met en scène pour exposer sa fragilité, pour exposer devant un large public ce qui fait problème en son sein. C'est-à-dire qu'elle rejoue la difficulté qu'elle a à être une cité. Elle expose sa vulnérabilité. Elle travaille sur sa peur de ne plus pouvoir être une cité et de sombrer dans la guerre civile. Et comment le fait-elle? C'est ce que l'on verra en fin de lecture. Eh bien, en mesurant que le chemin qui va du chaos à l'ordre politique n'est jamais définitivement garanti. C'est ce que notre lecture de l'Orestie nous permettra de comprendre. Alors, notre lecture. Notre lecture devra suivre le fil de la trilogie, mais bien sûr, il ne pourra pas être question d'entrer dans le détail de l'œuvre. Je ne ferai pas un commentaire littéraire. Pourtant, c'est une œuvre qui le mériterait. Nous centrerons notre attention sur les points qui nous paraissent essentiels, c'est-à-dire, j'entends par là, ceux qui délivrent un enseignement précis concernant l'évolution de la pensée au cœur de l'œuvre, et puis ceux qui concernent, bien sûr, le sens de la tragédie. Donc, je commence cette lecture. Examinons d'abord le cycle infernal de la vengeance tel qu'il apparaît dans les deux premières tragédies, Agamemnon et l'Écho et Phore. De quoi est-il question dans l'Orestie et surtout dans ces deux tragédies au début de l'Orestie? D'une suite de meurtres en chaîne, d'une série de vengeances et de représailles mutuelles qui risquent à terme d'anéantir la famille et la dynastie des Atrides et au-delà, l'équilibre de la cité d'Argos. Alors, dans la première tragédie, Agamemnon, nous assistons au retour du vainqueur de Troie. Agamemnon est le chef de la coalition des cités grecques qui a mené une expédition contre Troie suite à l'outrage que le Troyen Paris a fait subir à Zeus en violant les lois de l'hospitalité en enlevant la belle Hélène. Alors Clytemnestre, son épouse, l'accueille avec un faste ostentatoire. Elle déploie devant le palais un chemin de pourpre, digne du passage d'un dieu. Alors Agamemnon, dans un premier temps, s'oppose à la décision de son épouse, parce qu'il a bien conscience que c'est là un honneur normalement réservé aux dieux. Mais devant l'insistance de Clytemnestre, il finit par lui céder pour lui plaire. En réalité, il ne s'agit là que d'une ruse. Une ruse que pressent la jeune captive troyenne, Cassandre, la fameuse Cassandre, qui refuse, elle, de pénétrer dans le palais, jusqu'à ce qu'enfin, elle se trouve seule avec le cœur, c'est-à-dire le cœur ici, alors ça a une grande place dans les tragédies, surtout dans les tragédies d'Eschyle. Le cœur, au fond, c'est ce qui représente l'opinion publique. Ici, dans la première tragédie, l'Agamemnon, le cœur représente les vieillards de la cité. Vous voyez ? Alors, maintenant qu'elle est seule face au cœur, eh bien, elle dévoile de manière graduelle l'histoire sanglante du palais des Atrides. Cet abattoir humain au sol trempé de sang, selon son expression, c'est page 270. Alors elle révèle le destin du roi Agamemnon, dont en ce moment même l'assassinat est en train de s'accomplir, et elle annonce sa fin toute proche. Elle raconte ainsi qu'autrefois, Atrée, c'est le père d'Agamemnon, Atrée avait immolé les enfants de son frère Thieste, et elle raconte qu'à ce père, qui ignorait tout de ce crime, eh bien, Atrée lui présenta leur chair en festin. Il lui fit manger les enfants. C'est une histoire de famille. Pas toujours facile. Alors, seul Égiste, l'un des fils de Thieste, échappa au massacre, eut la vie sauve donc, et à présent, il est devenu l'amant de Clytemnestre. Alors, Cassandre a deviné. Et quand je dis « elle a deviné », ce n'est pas simplement deviner en idée. Elle devine à travers des songes, à travers des visions, des hallucinations, si vous voulez, et qui, pour les Grecs, ont une vérité. Eh bien, Cassandre a deviné que Clytemnestre a prémédité d'assassiner Agamemnon avec la complicité d'Égiste. Alors, je ne vous ai pas photocopié ce passage, je vous le cite simplement, c'est page 270. « Dieu, que prépare-t-on là? Quelle terrible douleur encore prépare-t-on en ce palais ?» Et plus loin, « Ah, misérable! Tu oses donc cela? Tu baignes l'époux qui partage ton lit, puis, comment dire la fin? L'heure est proche. Qui la verra? Deux bras, l'un après l'autre, avidement se tendent pour frapper. » Et ce que pressent Cassandre est bientôt confirmé, puisqu'un cri annonce l'assassinat du roi dans son bain. C'est-à-dire que Clytemnestre, la bonne épouse, a fait couler un bain pour son mari, Agamemnon. Bien chérie, je te fais couler un bain. Et puis, évidemment, elle en a profité pour le frapper à mort. Et là, on entend le cri d'Agamemnon. Hélas, hélas, dit-il, un coup mortel a déchiré ma chair. Alors, arrêtons-nous un instant pour réfléchir au sens de ce crime et examiner la nature de la culpabilité de Clytemnestre. Pourquoi ce meurtre ? Alors ici, il est remarquable que les réponses données à cette question sont multiples et apparemment contradictoires. Et ce que je voudrais montrer, c'est que cette multiplicité d'interprétations traduit d'emblée l'interrogation tragique concernant le rapport de l'agent à l'action qu'il accomplit. Je prends ce que dit ici d'abord Clytemnestre sur son crime. Page 281, c'est le texte numéro 1. Vous l'avez là. Voilà, on va le lire ensemble. C'est les textes de l'Orestie là, que je vous ai photocopiés. Texte numéro 1. Cette rencontre-là, longtemps j'y ai songé. Elle est donc venue, la revanche, enfin. Et je demeure où j'ai frappé. Cette fois, c'est fini. J'ai tout fait. Je ne nierai pas pour qu'il ne pût ni fuir, ni écarter la mort. Et puis plus loin, la même Clytemnestre, vous avez aussi photocopié le passage, et elle s'adresse ici au cœur. Vous me tâtez. Vous me croyez une femme irréfléchie. Et je vous dis, moi, d'un cœur qui ne tremble pas, vous le savez bien, de vous, louange ou blâme, c'est tout un pour moi. Celui-ci est Agamemnon, mon époux. Ma main en a fait un cadavre. Et l'ouvrage est de bonne ouvrière. Voilà. Donc, il est clair ici que Clytemnestre a préparé, a décidé, a exécuté le meurtre d'Agamemnon pour des raisons qui sont les siennes et qu'elle assume. Elle ne cache pas la haine qu'elle éprouve pour son époux, qu'a sacrifié, leur fille Iphigénie, souvenez-vous, afin d'obtenir des vents favorables qui permettent à la flotte grecque de s'éloigner de la côte et de voguer vers Troie. Parce qu'ils avaient du mal à partir. Il y avait des vents contraires. Eh bien, personne ne tient. Comment il s'appelle ? Agamemnon. Eh bien, sacrifie de ses mains sa fille, Iphigénie. Elle ne cache pas non plus ses ambitions. Elle veut se débarrasser d'un mari devenu gênant et permettre ainsi à son amant Égiste de prendre le pouvoir à Argos. Tout cela est juste. Tout cela est juste. Mais en même temps, plus loin, elle tente de se justifier devant les vieillards qui composent le chœur, donc dans la première pièce, Agamemnon. Je vous cite le passage. C'est le texte numéro 3. C'est le texte numéro 3 que nous allons prendre à partir de la réponse qu'elle fait au chœur. Clytemnestre. Tu prétends que c'est là mon ouvrage ? N'en crois rien. Vous voyez, elle se contredit, apparemment. Ne crois même pas que je sois la femme d'Agamemnon. Sous la forme de l'épouse de ce mort, c'est l'antique, l'âpre génie vengeur d'Atrée, du cruel Amphitryon qui a payé cette victime, immolant un guerrier pour venger des enfants. L'âpre génie, évidemment, il faut l'entendre au sens d'une puissance surnaturelle. Alors, à l'évidence, Clytemnestre, ici, contredit sa première version. À travers elle, ce serait, dit-elle, l'âpre génie vengeur d'Atrée qui s'en prend à la lignée des Atrides. C'est lui, donc, qu'il faudrait incriminer, puisque Clytemnestre ne serait que l'instrument du destin des Atrides. Alors, on pourrait ici, bien sûr, considérer que l'invocation de ces puissances surnaturelles n'est que de l'ordre de la mauvaise foi. Il est en effet significatif, d'ailleurs, que le cœur, indigné par la réponse de Clytemnestre, lui rappelle sa propre responsabilité dans un vocabulaire qui est ici de nature juridique. Regardez page, toujours 285, le texte numéro 3. Et, attendez, c'est plus loin, c'est juste après le texte que j'ai lu, le cœur. Toi, innocente de ce meurtre, qui trouveras-tu pour en témoigner? Et comment? Comment? Pourtant, si on considère aussi les propos du cœur dans la pièce, le cœur lui-même s'interroge sur le sens de ce crime. Il souligne bien la responsabilité humaine de Clytemnestre, mais en même temps, il a le sentiment que des puissances surnaturelles ont pu avoir leur part dans les événements. Ainsi, d'un côté, le cœur impute à Clytemnestre la responsabilité directe du crime et l'accable de son mépris et de sa haine, mais il reconnaît de l'autre côté la manifestation du génie vengeur de la race des Atrides dans la mort d'Agamemnon. Regardez bien le texte, toujours numéro 3. C'est juste après ce que je vous ai lu. Mais le génie vengeur de cette race peut bien être ton complice. Si, brutal, le noir Arès fait couler à flot le sang familial, c'est que l'heure est venue pour lui de fournir aux enfants dévorés, les enfants de Thieste, la justice que réclame leur sang figé sur le sol. Et puis plus haut, c'est le texte numéro 2. Déjà, le cœur disait, je cite, texte numéro 2, « Génie qui t'abat sur la maison et les têtes des deux petits-fils de Tantale, tu te sers de femmes aux âmes pareilles pour triompher en déchirant nos cœurs. Voyez-le-moi qui, perché sur le cadavre tel un corbeau de malheur, se flatte de chanter suivant l'usage son chant de victoire. » Et le coryphée, c'est le chef du cœur. « Ah, Hélène, folle Hélène, qui seule a détruit sous Troie des centaines, des milliers de vies. » Donc, vous voyez que ce génie vengeur se sert ici de deux femmes, aux âmes pareilles. La première, c'est Hélène, dont la séduction a entraîné la guerre de Troie, et toutes les violences qui s'en sont suivies. Et puis la deuxième, c'est Clytemnestre. Elles ont des âmes pareilles. Et plus fondamentalement, le cœur reconnaît dans le malheur qui s'abat sur la maison des Atrides la grande loi établie par Zeus. C'est le texte numéro 4, en haut à droite. Je lis. « L'outrage répond à l'outrage. » Prononcer est tâche ardue. Qui prétendait prendre et pris? Qui a tué paie sa dette. Une loi doit régner tant que Zeus régnera. Au coupable châtiment. C'est dans l'ordre divin. Ah, qui pourra donc extirper de ce palais le germe d'exécration. La race. Et rivée au malheur, la race au sens de la lignée. Alors, vous voyez quelle est la fonction du châtiment dans le cadre de la loi sacrée de la vengeance, qui est la loi de Zeus. Eh bien, elle est de payer en retour au criminel le crime qu'il a perpétré. Au fond, le châtiment, c'est une dette que paye le criminel. Le châtiment est une dette réclamée par la victime. Il s'agit là d'une loi sacrée qui ne souffre aucune exception et dont l'accomplissement est inexorable. Ainsi, selon cette loi, Agamemnon devait payer. Il devait payer leur venue, le prix du sang versé, celui qui avait été versé par son père, Atrée, en tuant les enfants de Thieste, et puis celui qui l'a versé lui-même en sacrifiant sa fille Iphigénie. Alors ce qui est assez curieux dans le texte d'Agamemnon, c'est que le cœur très respectueux d'Agamemnon n'évoque pas ce crime, qui est pourtant présent dans la pensée de Clytemnestre. Hein, vous voyez, préfère parler surtout du crime de son père, hein, mais n'évoque pas trop le sacrifice d'Iphigénie. Mais on y pense. Donc c'est ça la loi de Zeus, la loi de vengeance, qui stipule au coupable le châtiment. Et en énonçant cette loi, eh bien, le cœur voit très bien que la vengeance ne s'arrêtera pas au meurtre d'Agamemnon, hein, par Clytemnestre. Il voit très bien que ce meurtre va entraîner d'autres meurtres, d'autres châtiments, d'où l'angoisse qui s'exprime à travers ses propos quant à l'avenir de la lignée d'Atrides, des Atrides. Et à partir du moment où cette angoisse se formule, vous avez déjà le début d'une interrogation sur la légitimité de cette loi de vengeance. Mais nous y reviendrons. Avant d'aller plus loin, examinons davantage la manière dont la faute du criminel est appréhendée au début de l'Orestie. Dans le contexte religieux et traditionnel où se déroule au départ l'Orestie, la faute ne relève pas d'une simple intention personnelle. Elle n'est pas seulement imputable à l'individu qui s'est rendu coupable, au criminel. Elle dépasse cet individu, puisqu'elle se propage à sa lignée. Et c'est pourquoi le châtiment qui punit le criminel, eh bien, peut s'abattre sur les descendants du coupable. Hein ? Puisque ici, le châtiment qui concerne Atrée, bah, va ici punir son fils, Agamemnon. En ce sens, Clytemnestre est l'agent d'une loi de vengeance qui s'abat sur toute la lignée des Atrides. Et pour éclairer ce point, je m'appuie ici sur la lecture du livre de Jean-Pierre Vernant, Mythes et tragédies en Grèce ancienne. Et qu'est-ce qu'il montre Jean-Pierre Vernant ? Là, je ne vous ai pas cité le texte, hein, mais bon, c'est facile à saisir. Entendu, vous voyez, dans le sens archaïque et religieux qui prédomine au début de l'Orestie, la faute est l'équivalent d'une souillure religieuse. Vous voyez, dans ce sens archaïque, religieux, hein, la faute, c'est une souillure religieuse. Le mot grec utilisé, c'est armatia. Et cette faute est également comparable à une maladie mentale qui investit l'individu du dedans et le pénètre comme une force religieuse maléfique. Alors cette faute souillure est à la fois intérieure à l'individu et extérieure à lui. Intérieure en ce qu'elle fait corps avec lui, en ce qu'elle s'identifie à lui, mais en même temps extérieure en ce qu'elle est une souillure contagieuse qui le dépasse et qui s'attache à toute sa lignée. Mais si c'est bien cette conception de la faute qui s'impose au début de l'Orestie, il y a déjà, au cœur de la tragédie, une certaine prise de distance à l'égard de cette conception de la faute. Puisqu'en effet, la faute, comme on l'a vu, est également présentée comme l'expression d'une intention délibérée et personnelle du criminel. Hein, vous avez vu, il y avait une ambiguïté. Eh bien, dans la tragédie, vous voyez, justement, c'est ça, là, l'originalité de la tragédie. Dans la tragédie, la faute apparaît comme une réalité ambiguë. Et c'est ce qui explique les interprétations apparemment contradictoires que Clytemnestre et le cœur ont de son crime. Et ça, vous avez des pages de Jean-Pierre Vernant là-dessus qui sont très intéressantes. Alors à la fois, la faute est un projet humain, bien humain, ouvertement délibéré, et en même temps, elle est un dessein divin. C'est-à-dire que le même personnage apparaît tantôt agent, cause et source de ses actes, et puis tantôt, il apparaît agi, animé par une force qui le dépasse et qui l'entraîne. Je vous cite ici quelques lignes de Jean-Pierre Vernant. Je ne les ai pas photocopiées, mais éventuellement je les ramènerai. Voici ce qu'il écrit. « La culpabilité tragique se constitue dans une constante confrontation entre l'ancienne conception religieuse de la faute souillure, attachée à toute une race, se transmettant inexorablement de génération en génération, sous forme d'une athée, le mot grec athée, c'est-à-dire d'une démence envoyée par les dieux, et puis d'autre part, la conception nouvelle mise en œuvre dans le droit, où le coupable se définit comme un individu privé qui a choisi délibérément de commettre un délit. » Vous voyez ? Tragique cultive cette ambiguïté entre les deux sens de la faute. Ce qui veut dire que, avec la tragédie, s'effectue une certaine prise de distance à l'égard du mythe. Hein, et le mythe, au sens fort du terme, le mythe, c'est une croyance. Hein. Vécu comme une vérité, si vous voulez, par les Grecs de l'Antiquité. Hein ? Dans la Grèce archaïque, on croyait vraiment dur comme fer à ces histoires-là. Ce n'était pas des légendes, pas le mythe au sens où nous l'entendons comme légende. Hein ? Donc il y a, dans la tragédie, vous voyez, une certaine prise de distance à l'égard du mythe. Et on est en train, vous voyez, de voir naître une nouvelle conception de la faute qui va effectivement l'imputer, ici, à un individu. Alors, si la loi de Zeus doit régner, eh bien les choses ne font pas s'arrêter au crime d'Agamemnon. Si elle doit régner, c'est le malheur qui dévastera la maison des Atrides et entraînera la ruine de la cité d'Argos, comme le proclame le cœur, je reprends cette formule, la race est rivée au malheur. Hein, c'est dans le quatrième texte. Ainsi, le cycle de la vengeance va se renouveler. Après le crime d'Agamemnon, vous aurez bientôt celui de Clytemnestre, par leur fils Oreste. Et de fait, au début de la seconde tragédie, donc les Coéphores, on voit apparaître Oreste, qui avait été condamné à l'exil par sa mère. Alors il est recueilli religieusement sur la tombe de son père, après son retour clandestin. Les scènes sont très belles, hein, vraiment des scènes magnifiques. Hein. Bon. Pas à rendre la beauté de ce texte, hein, faudrait le dire. Il faudrait même le voir être représenté. Hein. Donc il est recueilli religieusement, et les Grecs sont des êtres extrêmement religieux, mais pas au sens où nous le sommes, où on l'est, par exemple, dans les sociétés marquées par la religion du livre. Hein, ça n'a rien à voir. La religion imprègne la vie quotidienne. Hein, c'est une religion très superstitieuse, hein, où on a l'impression que les puissances surnaturelles sont constamment présentes, hein, elles interviennent dans la vie de tous les jours. Bon. Et c'est là qu'il rencontre donc sa sœur, Électre, et tous deux vont rendre aux morts, à Agamemnon, les hommages et les rites funéraires dont celui-ci avait été privé. Alors, il faut savoir ici que si la rencontre entre le frère et la sœur peut avoir lieu, c'est en raison d'un songe de Clytemnestre. En effet, le souvenir du mort, donc à quand même nom, tourmente Clytemnestre. Elle a rêvé la nuit précédente qu'elle mettait au monde un serpent. Un serpent qu'elle emmaillotait comme un enfant et à qui elle donnait le sein. Mais avec le lait, le reptile a sucé un épais caillot de sang. Elle s'est réveillée brutalement. Alors, ce songe a fortement impressionné Clytemnestre. Elle craint la vengeance d'Agamemnon. Aussi, pour apaiser sa victime, elle charge sa fille Électre d'aller verser des libations sur la tombe de son père. Et alors, évidemment, c'est là que Électre se rend sur la tombe d'Agamemnon, accompagnée d'esclaves troyennes, qui forment le cœur de la deuxième pièce, les Coéphores, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles désignent les porteuses de libation. Alors, évidemment, certes, c'est vrai, Électre obéit à sa mère, mais devant la tombe de son père, elle ne peut pas se résoudre à déposer les offrandes que lui a confiées sa mère, ni elle ne peut pas non plus se résoudre à prononcer les paroles que celle-ci lui a demandé de prononcer. Elle se détourne de ce que lui a demandé sa mère et, au contraire, elle formule le vœu que son père soit vengé. Et c'est à ce moment-là, je vous passe les détails, la scène, qu'elle retrouve Oreste, qu'elle ne reconnaît pas d'abord. Hein. Bon, pourtant, il y avait des signes de sa présence. Elle retrouve Oreste, et évidemment, Oreste, à son tour, eh bien, va devoir obéir à la loi de Zeus, à la loi de vengeance, comme le lui ordonne Apollon. Je reviendrai tout à l'heure sur Apollon, le dieu Apollon. Alors, on aura compris que Oreste, c'est le serpent que sa mère a enfanté et qu'il est donc chargé de réaliser le rêve inquiétant qu'elle a eu. Hein, ça, les rêves ont un sens, pas au sens freudien, hein, pas au sens où il se rapporte à un passé infantile. Non, ils annoncent l'avenir. Vous voyez ? Donc, l'horreur du crime, évidemment, répugne à Oreste. Oreste, horrifié par l'idée de tuer sa mère. Mais l'oracle d'Apollon lui a ordonné de venger son père. Et Apollon lui promet les pires souffrances s'il était tenté de se dérober à ce devoir. Et je pense, je ne sais pas si je vous ai... Non. Eh bien, voilà, c'est le texte numéro 5. C'est le texte numéro 5, c'est Oreste qui s'exprime. « Non, il ne me trahira pas l'oracle tout-puissant de l'Oxias, l'Oxias c'est l'autre nom d'Apollon, qui m'ordonnait de franchir ce péril, élever ses clameurs pressantes et m'annoncer des peines à glacer le sang de mon cœur, si je ne poursuivais les meurtriers d'un père par leur propre voie et n'obéissais à son ordre, tuer qui a tué, en écartant farouche les peines qui ne privent que d'argent. Sinon, déclarait-il, moi-même en paierai le prix de ma propre vie au milieu de multiples et cuisantes douleurs. Donc, tu dois venger ton père, tuer ta mère, sinon tu seras condamné à souffrir. Alors, la décision, vous voyez, d'Oreste, hein, est commandée par le dieu Apollon. Mais en même temps, ça qui est intéressant, dans la même tirade, plus loin, Oreste déclare que ce sont là aussi ses désirs. Le désir de venger son père et de libérer ses concitoyens de la tyrannie exercée par Clytemnestre et Égiste sur la cité d'Argos. D'ailleurs, là aussi, vous retrouvez la même ambiguïté que dans le cas d'Oreste, que dans le cas de Clytemnestre, pardon. C'est-à-dire que, à la fois, c'est un dieu qui lui ordonne de tuer sa mère, et en même temps, c'est son désir. Il ne le cache pas. Vous voyez, il y a cette ambiguïté qui se retrouve ici. Donc son acte, ainsi, sera à la fois le sien et puis aussi celui du destin. Lisez par exemple la suite de sa déclaration, toujours texte numéro 5 plus loin. À de tels oracles peut-on désobéir ? Non. Et ne serait-ce point par obéissance, l'œuvre n'en doit pas moins être achevée. Bien des désirs en moi se trouvent là d'accord. À côté des ordres du Dieu, c'est le deuil profond de mon père, sans parler du dénuement qui me presse. C'est surtout le désir de ne pas laisser mes concitoyens, les conquérants de Troie, à l'âme résolue, être ainsi les serfs de deux femmes, car son cœur est d'une femme. S'il ne le sait, il va l'apprendre. Pas très... un peu misogyne, hein. Mais on reviendra sur cette question aussi à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, dans la troisième pièce. En tout cas, pour pénétrer dans le palais des Atrides et assassiner Clytemnestre, eh bien, Oreste va utiliser la ruse. Au fond, il va utiliser la ruse comme Clytemnestre avait utilisé la ruse. Il s'introduit dans le palais, déguisé en voyageur, avec son serviteur Pilate. Et comme il le dit d'ailleurs, c'est page 319, tous les deux imitent l'accent du parler de Phocide, puisque c'était là qu'il était exilé. Hein, donc il utilise un accent étranger, hein, pour faire croire qu'il n'est pas, évidemment, d'Argos. Et donc il fait croire à sa mère que son fils, c'est-à-dire lui-même, est mort. Alors à cette nouvelle, Clytemnestre l'accueille avec des pleurs plutôt assez hypocrites. Alors, là je ne voudrais pas entrer dans le détail, il tue d'abord Égiste, puis c'est le tour de sa mère qui comprend alors trop tard qu'elle s'est fait piéger. Alors, elle reconnaît à un moment donné, bien sûr, que c'est là son fils, et elle le supplie. Elle le supplie de ne pas le tuer, de ne pas la frapper. Et d'ailleurs, à un moment donné, Oreste marque une hésitation. Page 331, voilà ce qu'il écrit, voilà ce qu'il déclare à son serviteur. Pilate, que ferais-je ? Puis-je tuer une mère ? Puis-je tuer une mère ? Ben, seulement Pilate lui rappelle l'ordre formel d'Apollon, et alors, évidemment, il la tue. Mais aussitôt, après avoir réalisé sa vengeance, eh bien, Oreste est déjà en proie au déchirement. Il sait désormais que de la victoire qu'il vient d'emporter, il ne gardera pour lui-même, dit-il, qu'une atroce souillure. Page 355. Hein. 335, pardon. Alors, il a dû, donc, pour venger l'assassinat de son père, commettre un forfait plus odieux encore. Tuer sa mère. Tuer celle du sang dont il est né. Et c'est alors que lui apparaissent les Irinies. Ah, les fameuses Irinies, dont je vais vous parler. Alors, ici, si vous voulez, les Irinies, ce sont ces espèces de monstres, déesses monstrueuses, qui, au fond, d'une certaine manière, matérialisent le remords. Mais le remords, il n'est pas conçu par les Grecs anciens comme un sentiment intérieur. Hein, il est matérialisé dans des figures monstrueuses, extérieures. Et juste avant d'être tué, Clytemnestre avait mis en garde son fils. « Prends garde, songe bien aux chiennes de ta mère. » Les chiennes de sa mère, c'est les Irinies, les fameuses Irinies. Ces chiennes, ce sont des créatures terrifiantes, monstrueuses, qui entourent désormais Oreste et jurent de le poursuivre où qu'il aille. Alors, quelques mots sur ces fameuses Irinies. Donc, je disais que c'était des divinités vengeresses, des divinités archaïques vengeresses, plus anciennes que les dieux de l'Olympe, parce que figurez-vous que les dieux de l'Olympe ne sont pas éternels, ils sont immortels. Pas la même chose. Ils sont nés à un moment donné. Avant eux, il y avait d'autres dieux. Avant Zeus, il y avait Uranos, il y avait Cronos. Zeus, bon, a dû s'en débarrasser pour prendre le pouvoir. Hein. Il a fondé l'Olympe. Hein, et les autres dieux, Athéna, Apollon, sont des dieux olympiens, des dieux nouveaux. Mais les Irinies, elles font partie de l'ancien monde. Alors, on dit aussi les harpies. Et les latins diront les furies. Vous voyez ? Synonyme. Alors, leur apparition sur la scène du théâtre est tellement effrayante qu'une partie du public s'évanouissait quand ils les voyaient. Les spectatrices enceintes accouchaient avant terme. C'était effrayant, effrayant, effrayant. C'était vraiment, les gens vivaient ça avec intensité. Hein, bon, depuis qu'on a la télé, plus rien ne nous fait rien. Là, vraiment, c'était, vous voyez, vous imaginez la scène, hein, c'était des gens très réceptifs à ces émotions très fortes. Bon, alors il faut ici mesurer l'atmosphère de superstition dans laquelle vivaient les Grecs anciens. Ça, on l'oublie, ça. On peut pas. Bon, c'est eux qui ont inventé la démocratie, c'est eux qui ont inventé le droit, l'histoire, la tragédie, C'est vrai que c'est eux qui ont élaboré la première grande pensée rationnelle. Tout ça est juste, mais c'était, ça n'empêche pas qu'ils étaient des êtres foncièrement superstitieux. Hein ? Ils croyaient vraiment à l'existence et à l'intervention de puissances surnaturelles. Et au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mythes, ce n'étaient pas des récits légendaires qu'on se raconte comme ça. Alors ça, c'est vrai qu'à la fin du 5e siècle, vous avez des penseurs comme les sophistes qui vont de plus en plus rapporter les mythes de cette manière, d'une manière un peu légendaire, hein, comme de belles histoires qu'on raconte, mais auxquelles on ne croit pas. Mais ça, c'est nouveau, ça. Les Grecs archaïques, eux, croient à ces histoires, très profondément. Et les rêves n'étaient pas considérés par les anciens comme de simples productions de leur imagination. Ils témoignaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils témoignaient d'un message surnaturel, ainsi du songe de Clytemnestre. Et vous vous souvenez aussi des visions de Cassandre au début de l'Orestie. Elles ne sont pas appréhendées comme relevant purement et simplement du délire et de l'hallucination. Elles révèlent le destin qui va s'accomplir. Elles le révèlent. Elle est prise au sérieux par le cœur, qui s'effraie d'ailleurs de ce qu'elle raconte. Donc les tragédies d'Eschyle baignent dans cet univers mythique. Et c'est aussi, bien sûr, ce qui fait leur beauté. C'est vraiment des textes magnifiques. En tout cas, on ne peut pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. On ne peut pas détacher l'action tragique de ce rapport au mythe et au surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle, dans le théâtre d'Eschyle, moins dans le théâtre de Sophocle et encore moins dans le théâtre d'Euripide, le cœur a une énorme importance. Le cœur, il exprime ce rapport au mythe, au surnaturel. Alors le cœur, vous allez voir, dans la pièce, dans l'Orestie, dans la trilogie, le cœur, il représente dans Agamemnon les vieillards d'Argos, hein, qui sont inquiets de l'avenir. Dans l'écho et fort, le cœur exprime la voix des esclaves troyennes, vous voyez, ça peut changer. Et puis dans la troisième pièce, le cœur exprimera la voix des Irinies, des fameuses déesses vengeresses. Vous voyez, donc le cœur peut changer de fonction au fur et à mesure de la trilogie. Mais c'est vrai que le cœur a une énorme importance dans la pièce et c'est lui qui traduit, en général, l'angoisse face au destin. Alors, à ce moment de la tragédie, où en est-on ? Eh bien, la tension est à son comble. Et pour un moment encore, il nous faut interrompre cette rapide récapitulation de l'action des deux premières pièces pour essayer d'en interpréter le sens. Et pour cela, nous nous appuierons sur les interrogations du coryphée, c'est-à-dire le porte-parole du cœur, à la fin des coéphores. Et là, c'est le texte numéro 6. C'est à la fin des coéphores, à la fin de la deuxième pièce, que vous trouvez ce passage. On va le lire attentivement. Voilà donc le troisième orage dont le souffle brutal vient de s'abattre soudain sur le palais de nos rois. Des enfants dévorés ouvrirent, tristement pour Thieste, la série de nos maux. Puis ce fut le sort fait à un royal héros. Le chef des armées grecques périt égorgé dans son bain. Et maintenant encore, pour la troisième fois, vient de venir à nous, que dois-je dire ? La mort ou le salut ? Où donc s'achèvera ? Où s'arrêtera, enfin endormi, le courroux d'Athée ? Alors, Athée, c'est, comme le disait, expliqué tout à l'heure Jean-Pierre Vernon, c'est la déesse de la vengeance. C'est difficile à traduire, hein. C'est la vengeance, la fatalité, le malheur, tout ça à la fois. Si vous voulez, du point de vue d'Athée, le crime, c'est à la fois... plutôt, Athée, c'est à la fois ce qui désigne le crime et la folie, si vous voulez. C'est la démence envoyée par les dieux. Hein. C'est ça, Athée, le courroux d'Athée. Vous voyez, c'est au fond la puissance surnaturelle qui s'exprime à travers tous ces crimes. Alors, si je commente ce passage, vous voyez bien que ici, la chronologie des crimes établie par le coryphée donne le sentiment d'une accélération. Depuis le premier meurtre commis par Atrée, la loi de vengeance s'accomplit sans répit. Il n'y a pas de répit. On est pris dans un véritable engrenage, dans un véritable tourbillon, au point qu'on n'arrive plus à distinguer le châtiment du crime et le crime du châtiment. Après le crime d'Atrée, vient la vengeance de Clytemnestre, puis celle d'Oreste. Et avec ce troisième crime, eh bien, la loi de vengeance semble avoir atteint une véritable extrémité qui se traduit par l'aporie à laquelle est condamné Oreste. L'aporie, c'est-à-dire la contradiction insurmontable à laquelle il est condamné. Je la formule. Ou venger son père en tuant sa mère, ou laisser le meurtre de son père impuni en ne la tuant pas. Mais en tout cas, impossible d'honorer son père sans le venger et tuer sa mère. Voilà la situation à laquelle est exposé Oreste. Et c'est ce qui explique l'interrogation angoissée du coryphée qui dénonce le caractère absurde et interminable de la loi de vengeance. La première fois dans la tragédie qu'il y a ici une interrogation sur le sens de cette loi. Où donc s'achèvera, où s'arrêtera enfin endormi le courroux d'Athée. Et si vous regardez bien ici ce que disent les protagonistes de l'action dans les deux premières tragédies, voyez bien que chaque vengeur voudrait que sa vengeance soit la dernière. Par exemple, si je remonte à Agamemnon, la première pièce, Clytemnestre elle-même, après avoir assassiné Agamemnon, avait vivement souhaité la fin des meurtres. Je cite deux petits extraits, si vous voulez, page 290 d'abord. Voilà ce qu'elle dit. « Si ces mots pouvaient suffire, nous ne nous en plaindrions pas. » Et puis, avant, elle avait dit aussi qu'elle souhaitait bannir du palais cette fureur de mutuels homicides. Bon, ben, il faudrait que ça se calme, hein. Ce serait pas mal. Et d'ailleurs, c'est pour éviter qu'Agamemnon cherche à prendre sa revanche par-delà la tombe qu'elle avait mutilé son cadavre en lui coupant les membres. Comme ça, il ne risquait pas de se venger. Donc, vous voyez que la violence apparaît ainsi à ses propres acteurs comme une véritable maladie, comme une épidémie contagieuse dont il faudrait à tout prix arrêter le cours. Et c'est encore le sens du vœu qui est exprimé par le cœur dans les coéphores. Dans les coéphores, voilà ce que dit le cœur, c'est page 327. « Allons, effacer le sang des forfaits passés par une prompte vengeance que le vieux crime n'enfante plus dans la maison. » Donc le cœur souhaiterait lui aussi que le crime perpétré par Oreste soit bien le dernier. Alors, ici, on pourrait faire une objection. On pourrait faire une objection, mais vous allez voir, cette objection, finalement, on peut lui répondre. On pourrait se demander, en effet, si ce n'est pas parce que les hommes de l'Antiquité étaient moins sensibles que nous à l'horreur du sang versé, qu'ils le versaient avec autant de facilité. Hein, c'est ce qu'on serait tenté de penser. Eh bien, à cette remarque, René Girard, auteur, philosophe contemporain, qui a écrit un livre qui s'appelle « La violence et le sacré », paru en 1972, eh bien, René Girard répond qu'il n'en est rien. Et c'est même tout au contraire, parce que ces hommes étaient tout aussi sensibles que nous à l'horreur du sang versé, bah, qui n'avaient pas d'autre moyen pour en arrêter le cours que d'en verser davantage. Je vous cite René Girard. C'est tout début de son livre. Je cite, je ne vais pas photocopier. C'est parce que le meurtre fait horreur, c'est parce qu'il faut empêcher les hommes de tuer que s'impose le devoir de la vengeance. Le devoir de ne jamais verser le sang n'est pas vraiment distinct du devoir de venger le sang versé. C'est bien parce qu'ils sont convaincus que la violence est odieuse qu'ils se font un devoir de la venger. Vous voyez la réponse à l'objection que je faisais. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a donc quelque chose de nouveau à la fin des coefforts. Puisqu'au terme des deux premières tragédies, est apparue pour la première fois une interrogation très angoissée sur le sens de la vengeance. Et c'est cela qu'il faut, je crois, surtout retenir. La vengeance commence en effet à être mise en question dans sa légitimité. Et sur ce point, le cœur exprime un certain désarroi. Tantôt, il continue à répéter, je cite, que c'est piété de payer le crime par le crime. En ce sens, il exprime la tradition. Tantôt, il exprime une crainte très nette à l'égard du caractère interminable du processus de la vengeance. Donc on assiste à une certaine mise à distance de la loi de vengeance. Et dans la troisième tragédie, les Euménides, Oreste se demandera, ai-je eu tort, ai-je eu raison? Alors nous en venons, effectivement, au début de la troisième tragédie, les Euménides, que je vais peut-être pas aborder complètement, non, c'est pas possible, ce serait trop long, mais au moins, on va avancer pas mal. Donc au début de la troisième tragédie, le problème à résoudre devient désormais le suivant. Comment rompre le cycle infernal de la vengeance au bénéfice d'Oreste? Et pour reprendre le langage mythologique et religieux qui est encore celui de la tragédie, on pourrait reformuler le problème de cette façon. Comment délivrer Oreste de la poursuite furieuse des Irinies? Comment laver la souillure du crime d'Oreste sans être à son tour contaminé par la souillure d'un autre crime? Vous voyez, je formule les choses dans le langage religieux qui est celui des Grecs de l'Antiquité, des Grecs archaïques, si vous voulez. Hein, comment délivrer Oreste de la poursuite furieuse des Irinies? Comment laver la souillure de son crime sans être à son tour contaminé par la souillure d'un autre crime? Alors à cette question, vous allez voir que la tragédie des Euménides va apporter deux réponses différentes en les confrontant. Alors vous aurez d'abord la réponse d'Apollon, qui va recourir à la pratique religieuse du sacrifice, mais elle va échouer. Et puis vous aurez ensuite celle d'Athéna, la déesse Athéna, qui va fonder pour Oreste la juridiction d'un tribunal, le tribunal de l'aréopage. Alors évidemment, c'est ça le morceau le plus important de l'Orestie. Nous allons y venir, mais il faut d'abord bien dérouler ce qui est avant. La troisième pièce, donc, de l'Orestie, les Euménides, se caractérise principalement par l'intervention directe des dieux, Apollon puis Athéna. Jusqu'à présent, l'attention était principalement portée sur les victimes non vengées. C'est d'elles que vient le péril le plus immédiat. Une victime non vengée réclame son dû. Elle veut être payée en retour, souvenez-vous. Elle exige la vengeance du crime qu'elle a subi. Pour éviter ce péril, Clytemnestre, je vous l'ai dit, avait mutilé le cadavre d'Agamemnon afin d'éviter qu'il cherche à prendre sa revanche. Mais au début des Euménides, on assiste à un véritable déplacement de l'attention. Elle ne porte plus sur les victimes non vengées, elle porte désormais pour la première fois sur le coupable, sur le meurtrier lui-même. Pour la première fois, on s'interroge sur la nature de sa culpabilité. C'est-à-dire ce simple déplacement de l'attention montre qu'on est en train de sortir d'une stricte logique de la vengeance. Et pour la première fois, on va s'interroger sur le coupable, sur la nature de sa culpabilité. La question de la victime ne sera plus au centre. Nouveau, ça. C'est nouveau. Le dieu Apollon a promis protection à Oreste, si celui-ci obéissait à l'injonction de son oracle. Et il lui a promis le châtiment, s'il n'y obéissait pas. C'est donc conformément à l'engagement du dieu de le purifier dans son sanctuaire à Delphes qu'Oreste se présente justement à Delphes en suppliant. Il est accroupi dans la position d'un suppliant. Je vous cite le passage. Il est accroupi, les mains dégoûtantes de sang, avec une épée frais sortie d'une blessure et un long rameau d'olivier, dévotement entouré d'un épais réseau de bandelettes. Page 350. Alors, cette attitude rituelle du suppliant, c'est un geste qui possède une efficacité magique et religieuse. Il faut le comprendre ainsi. Parce que cette attitude, si vous voulez, ce rituel, met en jeu des puissances sacrées. Et des puissances sacrées qui ne s'imposent pas seulement aux hommes, mais aussi aux dieux. Puisque Apollon, ici page 357, peut déclarer lui-même « Et moi, je défendrai, je sauverai celui qui m'implora, terrible pour les dieux comme pour les mortels, et le courroux du suppliant contre celui qui l'a sciemment trahi. » C'est-à-dire que le dieu est engagé par, ici, la supplication du suppliant. Il ne peut pas s'y dérober, il est lui-même menacé s'il ne respecte pas son engagement. En même temps, le risque est grand pour lui de se voir souillé au contact du criminel. Et c'est aussi extrêmement dangereux pour son sanctuaire, puisque ce sanctuaire risque de perdre sa pureté. Et c'est ce que lui rappelle ici le cœur qui représente les Irinies, les affreuses déesses vengeresses. Et ici, les Irinies, le cœur qui représente les Irinies, met en cause l'attitude d'Apollon. Alors vous avez le texte, c'est le texte numéro 7. Il faut que je le retrouve. Excusez-moi, je vais en trouver un. Non, parce que moi, j'ai pas arrêté là. Alors, voici texte numéro 7. Donc, c'est le cœur qui représente les Irinies, qui s'exprime. Voilà donc les façons de ces jeunes dieux qui veulent régner sur le monde sans souci de la justice. Ah, le trône ensanglanté, au pied, à la cime. Oui, je le vois, l'ombilic du monde, chargé de la souillure terrifiante d'un meurtre. Le foyer de sa demeure, le devin l'a sali lui-même. Qui l'y forcé? Qui l'en priait? Il a passé outre à la loi des dieux et pour honorer des mortels, déchiré l'antique partage. Alors voilà, ça c'est un texte important à bien commenter, à bien comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet antique partage? L'antique partage, c'était précisément celui par lequel les Irinis étaient jusqu'ici chargés de poursuivre les crimes de sang. Et elles épargnaient par là aux autres dieux le contact avec la souillure des criminels. C'était aux Irinis de faire le boulot. Hein? En un mot, ce que reprochent ces vieilles divinités au jeune dieu Apollon, ben c'est de vouloir rompre avec la logique ancestrale de la vengeance, avec la justice traditionnelle qui régnait jusqu'à maintenant. Donc on assiste ici, ça c'est très important, à une sorte de crise de génération à l'intérieur du monde divin. Elle divise les dieux en divinités archaïques, les Irinis, et puis en dieux nouveaux, les dieux olympiens. Et ces divinités, ces dieux ne peuvent plus s'entendre et se comprendre. C'est ainsi, par exemple, si je cite Apollon, parlant des Irinis, il traite les Irinis de vierges maudites, de vieilles filles, d'un antique passé que jamais n'approche Dieu, homme, ni bête. Oui, vraiment, complètement dépassé, archaïque, vieille fille. Donc, page 351. Et la solution, par contre, ce qui est vrai, c'est que la solution adoptée par Apollon pour protéger Oreste et le purifier de sa souillure reste une solution traditionnelle. C'est une solution traditionnelle qui va avoir pour fonction d'éviter la vengeance, justement. La véritable novation, vous l'aurez avec Athéna, hein, puisque c'est le clou du texte. Alors, qu'est-ce que c'est que la solution d'Apollon? C'est le sacrifice. Il s'agit de sacrifier un jeune animal, ici c'est un jeune porc, de faire couler son sang sur Oreste afin de laver sa souillure. Et après cela, Apollon enjoint à Oreste d'aller finir, je cite, « d'user sa souillure au contact des mortels en un long exil d'expiation » au terme duquel Oreste devra demander protection à Athéna dans sa ville, c'est-à-dire à Athènes. Alors là encore, je m'appuierai sur la lecture de René Girard dans La violence et le sacré, sur le sacrifice. Au fond, si on comprend bien, le sacrifice est une manière de domestiquer et de canaliser la violence. Alors, sacrifier un animal, par exemple, c'est tenter de détourner la violence, d'éviter précisément la logique de la vengeance, en la faisant dériver sur une victime qui, du fait de sa différence radicale, ne risque pas de réclamer vengeance. Sacrifier un jeune porc ne risquera pas, tellement il est différent, de réclamer vengeance. Vous voyez ? On détourne la violence, on la canalise. Donc, il s'agit toujours de faire verser le sang, bien sûr. Là-dessus, rien n'est changé. Il s'agit toujours de faire verser du sang pour répondre au sang versé. Mais ici, le sang purificateur ne doit pas, à son tour, entraîner une contamination de la violence. Il doit arrêter, justement, cette violence. Comme l'explique ici René Girard, verser le sang d'une victime sacrificielle permet de purifier la violence, c'est-à-dire de la tromper et de la dissiper sur des victimes qui ne risquent pas d'être vengées. Donc le sacrifice du jeune animal a ce sens-là. Maintenant, le sacrifice d'Apollon exige aussi d'Oreste qu'il souffre lui-même par un long exil expiatoire. Et ici, il y a un autre type de sacrifice, si vous voulez. Ici, le sacrifice, c'est un châtiment. C'est un châtiment qui permet à Oreste de se purifier lui-même afin de pouvoir réintégrer la cité, hein, sans la menacer de sa souillure. C'est ce dont nous parlions la fois précédente. Enfin, quoi qu'il en soit, cette solution va échouer. Elle va échouer parce que Apollon ne peut pas vaincre les Irinies par son moyen. Hein. Il ne peut seulement que les endormir. Il ne peut seulement que les endormir. Mais dès lors qu'elles sont réveillées par l'ombre de Clytemnestre, c'est-à-dire, si je le dis autrement, dès lors que Clytemnestre morte réclame son dû, c'est-à-dire la vengeance, eh bien, les Irinies continuent de poursuivre au reste. Cet échec, évidemment, s'explique par la division qui affecte dorénavant le monde divin. Parce que jusqu'alors, vous savez, il y avait une alliance entre Zeus, le chef des dieux olympiens, et puis ces puissances divines que sont les Irinies. Mais, effectivement, jusqu'à présent, jusqu'alors, Zeus faisait appliquer sa justice par leur intervention. Hein ? Elles étaient des auxiliaires, si vous voulez. Elles seules pouvaient officier auprès des mortels. Elles évitaient, souvenez-vous, aux dieux, le risque de la moindre souillure. Mais, évidemment, depuis que l'antique partage a été déchiré, eh bien, cette répartition des rôles n'existe plus. Hein, Apollon se débrouille tout seul, hein, sans faire appel à elle. Hein, il cherche à purifier lui-même directement ici Oreste. Et il est accusé donc d'avoir passé outre la loi des dieux, hein, et pour honorer des mortels, d'avoir déchiré l'antique partage. Souvenez-vous de cela. Alors, vous voyez, effectivement, voilà pourquoi il y a échec. Parce que les Irinies résistent, à partir de là, effectivement, à l'opération menée par Apollon. Le questionnement, en tout cas, voyez-vous, concerne désormais beaucoup moins Oreste que le dieu Apollon lui-même. C'est-à-dire que, ici, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aussi aux raisons pour lesquelles Apollon a ordonné à Oreste de venger son père en tuant sa mère, sachant qu'il refuserait que Clytemnestre soit vengé et Oreste tué à son tour. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi procède-t-il de cette façon ? Alors, on peut peut-être avancer une hypothèse. Évidemment, cette hypothèse n'est pas formulée dans le texte. Mais on peut formuler cette hypothèse. Est-ce que Apollon, et avec lui tous les dieux olympiens, ne se serviraient pas du cas Oreste pour pousser l'ancienne justice de vengeance jusqu'à ses limites les plus extrêmes et les plus absurdes, afin de faire naître un droit nouveau qui rompe avec la vengeance? Vous voyez ? La question qu'on doit légitimement se poser. Il faut ici rappeler que Apollon, encore une fois, a ordonné à Oreste de venger son père en tuant sa mère, sous peine de lui infliger des souffrances épouvantables, sous peine de le livrer aux Irinies. Et voilà maintenant qu'il est obligé de le protéger contre les Irinies. Alors, vous voyez qu'à travers le sort d'Oreste, ce qui se joue maintenant, c'est un conflit radical entre deux sortes de puissances divines et avec elles, deux formes de justice. Deux formes de justice. Et le problème, à ce moment-là, n'est plus seulement le problème du sort d'Oreste. Hein. Il est maintenant plus profondément le problème de la justice. La question, en effet, c'est qu'est-ce qui est vraiment juste ? Est-ce que la loi de vengeance est vraiment juste ? Et si ce n'est pas elle, quelle justice doit prévaloir ? Et selon la réponse apportée à cette question, eh bien, Oreste sera soit irrémédiablement exposé au châtiment, soit disculpé. Vous voyez ? Alors, j'en arrive vers la fin de mon propos. Hein, je ne vais pas aller trop loin parce qu'il faudrait que tout ça se mette en place. Et puis, vous aurez comme ça le temps de relire le texte. Et puis, la prochaine fois, eh bien, on profitera d'autant mieux hein, de ce que nous avons fait jusqu'ici. Et on en s'attaquera au morceau le plus important. Hein, et à ce moment-là, la réflexion philosophique aussi pourra se jouer. Hein. Au terme donc, de multiples exercices de purification ordonnés par Apollon, donc, Oreste rend à Athènes. Et il attend dans le sanctuaire de la déesse Athéna, comme il le dit, l'arrêt de la justice. Alors ici, l'apparition d'Athéna transforme complètement l'atmosphère de la tragédie. Elle écarte d'abord les insultes. Elle réclame de tous, comme elle dit, un clair langage. Elle interroge le coryphée qui représente les Irinies. Mais elle refuse de n'entendre qu'une seule voix. Elle refuse de n'entendre qu'une seule des parties en présence. Elle exige une confrontation dialoguée. Ouais, c'est nouveau. Et surtout, elle refuse de se laisser enfermer dans les prestiges des rapports de puissance traditionnels en soutenant Oreste dans son refus du serment. Alors évidemment, ça exige une explication. Il faut ici expliquer ce que les Grecs archaïques appelaient le serment. Le serment, c'est ce qui est revendiqué par les Irinies. Elle réclame ce serment. Et ce serment n'a rien à voir avec ce que nous entendons, nous, aujourd'hui, bien sûr, par là. Hein, ça n'a pas le même sens. Alors, qu'est-ce que c'est que le serment ? Ah, ce n'est pas le serment, où, comme nous l'entendons, où il s'agit de faire surgir la vérité et puis de la garantir hein, en donnant sa parole. Ce n'est pas ça. Non, il s'agit d'une épreuve rituelle. D'une épreuve rituelle où il s'agit de soumettre l'adversaire en suscitant contre lui des forces religieuses. Par exemple, en jurant qu'Oreste a versé le sang, eh bien les Irinies veulent réduire Oreste à leur merci. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jurer qu'il n'a pas versé le sang. Hein, il ne peut pas le jurer. Et donc, vous voyez, par la pratique du serment, les Irinies sont sûres de gagner. Hein, elles sont sûres de gagner. Mais comme Oreste ne veut pas entrer dans un combat de serment à serment, parce qu'il serait battu d'avance, eh bien les Irinies viennent s'en plaindre à Athéna. Alors, elles respectent Athéna parce qu'Athéna leur parle bien. C'est très important. Athéna refuse ce type archaïque de justice, au nom d'une justice qui discute le cas du criminel et évalue son acte. Alors le problème pour elle sera non pas de savoir si Oreste a bien tué sa mère, c'est pas de ça dont il sera question, mais le problème sera de se demander si son acte était juste ou non. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de faire une enquête en confrontant les témoignages avant de se prononcer. Et à partir de là, la question va être celle de savoir à qui reviendra cette fonction d'enquête et de jugement. Alors, première hypothèse, est-ce que c'est pas à Athéna qu'il faut remettre cette fonction ? Non, Athéna dit non. Athéna s'estime incompétente, elle le dit, et elle déclare que le jugement dépasse la compétence aussi bien des mortels que des dieux. Alors, vous voyez, le texte numéro 8, et je termine mon propos par ce texte, hein, on va terminer là, on va rester sur notre fin, parce qu'effectivement, c'est à partir de ce maintenant que les choses vont vraiment se jouer, mais il fallait, je pense, tout ça pour arriver là. Texte numéro 8, vous voyez, Athéna, voilà ce qu'elle dit. Si l'on trouve la cause trop grave pour que des mortels en décident, il ne m'est pas davantage permis à moi-même de prononcer sur des meurtres dictés par un courroux vengeur. Alors surtout que tu as su du moins venir en suppliant, soumis et purifié, sans danger pour ma demeure, et que je te tiens aussi pour libre de tout tort à l'égard de ma ville. S'adresse évidemment à Oreste. Mais de leur côté, celles-ci, c'est-à-dire les Irinies, ont des droits qu'on ne saurait écarter à la légère. Et s'ils n'obtiennent pas de voir triompher leur cause, sur le sol de ce pays, plus tard va s'abattre le trait de leur dépit. Un intolérable et triste fléau. J'en suis donc là. Que je les accueille ou que je les repousse, les deux me réservent d'inévitables maux. Pourtant, puisque la chose en est arrivée là, Je vais faire ici choix de juge du sang versé. Un serment, alors là, ce ne sera pas le même sens, un serment les obligera, et les tribunaux, qu'ainsi j'établirai sera établi pour l'éternité. Vous faites appel aux témoignages, aux indices, auxiliaires assermentés du droit. Je reviendrai quand j'aurai distingué les meilleurs de ma ville pour qu'ils jugent en toute franchise, sans transgresser leur serment, d'un cœur oublieux d'équité. Alors, qu'est-ce que retenir de ce texte, hein, l'essentiel, après j'arrête parce qu'on reprendra la question à la séance suivante. Premièrement, je crois qu'il faut retenir la chose suivante, les choses suivantes. Donc les mortels, dit-elle, ne sauraient être à eux seuls compétents pour trancher le cas. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire là ? Elle fait allusion à la pratique de la justice qui existait auparavant. Auparavant, c'était des rois qui jugeaient. Et des rois qui jugeaient, enfin, il y avait une sorte de justice privée, hein, familiale, hein, comme je l'avais dit, et c'était eux qui jugeaient, comme s'ils étaient investis d'une mission divine. Ben, ça, c'est fini. Le jugement n'est plus non plus l'affaire des dieux. Hein, n'est plus non plus l'affaire des dieux. Et Athéna, ici, insiste sur ce point parce qu'elle montre bien que le jugement n'a plus rien à voir avec un acte religieux. Il n'a plus rien à voir avec un acte religieux qui met en jeu des puissances divines, comme ce pouvait être le cas. Voyez, la justice n'est plus une affaire divine. Ce jugement est dorénavant de l'ordre de la délibération. Et cette délibération est précédée par une confrontation juridique entre deux parties opposées, et deux parties en présence, ce sera évidemment d'un côté Oreste avec son avocat Apollon, et puis de l'autre côté, vous aurez les Irinies représentées par le Coryphée. Voilà les deux parties, hein, qui sont opposées. Et le jugement devient une affaire publique. Il devient une affaire publique. Il relève d'une assemblée de citoyens, un tribunal. Hein. Et puis enfin, le serment est maintenu. Mais alors attention, il n'a plus du tout le même sens. Il n'a plus le même sens. Alors qu'auparavant, il avait une valeur décisoire, hein, puisque le serment, hein, permettait d'agir, hein, sur l'adversaire et de le vaincre. Maintenant, le serment n'est qu'un préliminaire par lequel on commence le procès. Jure de dire la vérité. Et donc il ne met pas en jeu ici des forces religieuses qui dépassent les hommes, mais il vise à obtenir l'approbation des juges. Hein, mais l'essentiel résidera dans la discussion des thèses en présence, hein, comme je vous l'ai dit, les deux adversaires que sont d'un côté Oreste et puis de l'autre côté les Irinies. Voilà comment je vais vous présenter les choses. Mais je sais bien que tout reste à faire maintenant. C'était une séance apéritive.
Moi, je n'arrive pas à comprendre quel va être l'objet du jugement.
Ah ben, est-ce que Oreste...
La culpabilité d'Oreste, là, tout le monde est persuadé.
Non.
Est-ce que c'est...
pas dit ça.
Pas le bon droit qu'il avait d'être fait.
Non.
Je comprends pas.
Alors, les faits sont indiscutables. Il a tué sa mère. On est d'accord. Ça, il ne va pas le nier. Mais est-ce que son acte est juste ou non ?
Mais aux yeux, enfin, des juges, selon quel principe ?
Ah ben voilà, ça va être ça le fond de l'affaire. Quelle sera la justice ? Quelle sera la justice ? Alors pour les Irinistes, c'est évident, la justice, c'est la justice qui triomphait jusqu'alors, la loi de vengeance. Au reste, il doit y passer, puis c'est tout, il n'y a pas à discuter même d'ailleurs. Qu'on ose même déjà discuter de ça, franchement, pour les Irini, ça ne va pas. C'est scandaleux. Et pour Athéna, bah, ça se discute. Il va falloir réfléchir, il va falloir délibérer. Il y aura un vote au terme de la délibération. Il y aura un vote. Ce qui est extraordinaire, enfin là, l'habitude... Ça, c'est assez savoureux. C'est que si vous regardez bien le résultat du vote, il y aura égalité des voix. Donc, égalité des voix, ben, ça bénéficie à celui qui est jugé, il sera acquitté. Mais regardez comment est obtenue l'égalité des voix, grâce au vote d'Athéna elle-même, en faveur d'Oreste. Et elle ne cache pas son côté partisan. Alors les arguments, là, on va pas les évoquer tout de suite. Et pourquoi tout ça? Vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert ce dispositif? Pour montrer, un, que la question n'est plus ici de savoir, il n'y a pas de justice vraie, si vous voulez. Vous pouvez parler d'une vraie justice, d'une justice vraie quand on examinait, quand on envisageait la justice du point de vue religieux, il y avait une vérité qui, en quelque sorte, s'exprimait à travers la sentence. Là, non. Là, ça va être une décision qui va être obtenue ric-rac. Franchement, même, vous imaginez bien que si elle n'avait pas voté, elle était condamnée. Et pourquoi il tient Eschyle à montrer cela? Parce que, justement, ce qui est important à partir de là, mais ça, il faudra bien le comprendre, c'est que il est important que les Irinies n'aient pas l'impression d'avoir été vaincues. Si le vote était fortement majoritaire en faveur d'Oreste, ce serait une catastrophe. Elle serait humiliée, méprisée, elle se sentirait... elle risquerait de se venger, justement. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à se concilier, les Irinies. Et le danger, c'est que les Irinies risquent d'être en colère. Et d'ailleurs, au début, quand elles apprennent le verdict, elles sont en colère. Et elles menacent Athènes de la peste. Et moi, c'est pas drôle. On est bien d'accord. Alors, il fallait les calmer. Alors Athéna, elle va user de la persuasion. Elle va s'y reprendre à 4 fois pour obtenir l'approbation, enfin l'accord des Irinies, et en leur donnant une place désormais dans l'ordre politique de la cité. C'est-à-dire avoir une nouvelle place dans l'ordre nouveau de la cité. Elles vont d'ailleurs se transformer en Euménides. Elles étaient Irinies, elles deviennent des Euménides. Alors elles ne changent pas, mais leur rôle va changer. C'est-à-dire que les Euménides, au fond, elles vont avoir le rôle, d'une certaine manière, d'exercer une certaine forme de crainte à l'égard des citoyens qui voudraient effectivement désobéir aux lois. C'est-à-dire que la crainte est indispensable. Il faut, bien sûr, que pour qu'une cité soit pacifique, il faut qu'il y ait de l'amitié, au sens où l'entendent les Grecs, la philia, une sorte de fraternité, si vous voulez, c'est important, il faut de la justice, mais il faut tout de même pas éliminer la crainte. Il faut un peu de crainte. Il faut qu'ils se sentent menacés si, effectivement, ils sont tentés de désobéir aux lois. Ça, c'est très important. Alors, voilà, ça, c'est... Vous voyez, les Irinies, alors, elles vont dire, OK, d'accord, elles vont... Il y a une happy end, dans l'Orestie. C'est très rare, d'ailleurs. C'est une des rares tragédies où ça se termine relativement bien. Parce que c'est pas... Non, parce que là, je suis en train d'enjoliver un peu. Parce que, d'une certaine façon, j'anticipe sur ce que nous montrerons, les choses ne sont jamais définitivement gagnées. Il faut faire comprendre que l'ordre de la cité, il se construit toujours sur fond de chaos. Et le chaos peut toujours revenir. Et il faut que les citoyens soient bien conscients qu'une cité, c'est fragile. Et il faut mettre en spectacle la vulnérabilité de la cité pour les amener. Et c'est ça la fonction du théâtre, pour les amener effectivement à comprendre ce point. Et toute la réflexion d'Aristote, sur le théâtre, sur le tragique, etc., vous pouvez la comprendre à partir de là. Vous voyez, c'est ça, en fait. Alors, évidemment, il y a aussi tout le contexte historique auquel renvoie indirectement cette tragédie. Et elle renvoie les événements qui sont ceux de la démocratie athénienne. En 30 ans, c'est extraordinaire ce que Athènes a pu créer. En 30 ans, on parle du miracle grec, qui sont tout inventés. La démocratie, la philosophie, l'histoire... Le droit, tout. Vous voyez? Et ça, je crois que ça, c'est une pièce, à mon avis, c'est une œuvre théâtrale, vous voyez, qui n'est pas purement d'ordre littéraire. Elle est littéraire, bien sûr, il faut la lire et l'apprécier comme une grande création littéraire. Mais ce serait réducteur que de la considéré seulement de cette façon-là. Le théâtre grec, il a une vocation politique. Ça concerne tous les citoyens. C'est pas un truc théâtre ce soir. Hein. C'est pas voilà. Hein, c'est pas je vais me divertir, aller assister à une bonne pièce de théâtre. Non, c'est pas ça. Vous voyez ? Alors voilà. Je crois que ce sont là des choses très importantes. Vous voyez ? Et toute la réflexion d'Aristote sur la catharsis, etc. Bon, ouais, on peut à partir de là essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et je pense, si vous voulez, moi si j'ai eu le besoin de lire avec vous cette pièce, alors que, vous voyez, là, il y a... je l'ai suivi attentivement. C'est un petit peu pour essayer de vous faire partager cette ambiance qui était celle, finalement, des anciens, hein, dans la cité athénienne, hein, du 5e siècle, un peu, vous, hein, pour que vous soyez un peu dans l'ambiance, quoi, hein, et qu'on vous... compreniez ainsi les enjeux qui vont se poser. Bon, je vous laisse la parole.
Si Oreste par le biais de la vengeance, si Oreste doit disparaître, qui le tuera ?
Ah !
Si Oreste par le biais...
Oui, si jamais il avait été condamné.
Qui serait...
Ah, bah alors là, c'est vrai que c'est pas évoqué. C'est vrai. C'est vrai.
Il y a peut-être un enfant, ouais.
Ah non, il est trop jeune.
Les hérédites doivent avoir de l'imagination.
Oh oui, croyez-moi, on aurait trouvé quelqu'un. Non, mais là, effectivement, c'est pas évoqué.
C'est pas la maladie, c'est pas l'accident.
Non. Mais vous voyez bien qu'Oreste, finalement, ce n'est qu'un prétexte. Vous avez bien compris. En fait, c'est vrai, tant qu'on reste dans la loi de la vengeance, qui est la loi sacrée dans les deux premières pièces, oui... On parle des personnages humains, mais en fait, on voit bien que l'essentiel, c'est les dieux. C'est le conflit des dieux. C'est le conflit entre deux conceptions de la justice. C'est ça qui est important. Et comment... Et là, le chef-d'œuvre d'Athéna, c'est d'arriver à faire passer de l'une à l'autre, en douceur, dans la mesure du possible. Et encore, je veux dire, il ne faut pas rassurer les Grecs. Il ne faut jamais rassurer les gens. Il faut leur montrer que c'est toujours dangereux. Une cité, ça peut toujours s'écrouler. Ça, c'est la fonction du théâtre. Hein. Bien rappeler que, attention, hein, pas de... quand je dis happy end, c'est un peu rapide. Non. Il faut craindre. Alors, la souffrance, ça vous aide déjà à devenir intelligent. Mais si on oublie, effectivement, le risque qu'on court la cité, on risque de tomber dans l'hubris, hein, à des mesures, et à ce moment-là, la cité risque d'aller à sa perte. C'est un problème constant. Et c'est vrai que c'est magnifique comme théâtre, parce que, et c'est pas par hasard que ce théâtre-là intervient à ce moment-là comme ça, parce que vous êtes à la charnière de deux mondes. Vous êtes en train de vous éloigner d'un monde religieux, hein, où fondamentalement les hommes étaient sous l'emprise finalement des dieux, enfin c'est pas eux qui décidaient de leur sort, hein. Et vous passez de ce monde-là à un monde nouveau où désormais l'avenir dépendra d'eux et de leur organisation. Le politique, au sens noble du mot, c'est le domaine de la délibération collective. C'est le politique qui va désormais les hommes, c'est à eux d'inventer leur avenir, c'est à eux de construire leur cité. C'est d'eux et leurs initiatives que dépendra effectivement leur avenir. Ça, c'est tout à fait nouveau.
Mais c'est un peu le message d'Eschyle en disant qu'il faut que la justice soit une justice humaine, non plus divine.
Absolument. Et où il y a une délibération collective. C'est une apologie de la démocratie. Je crois d'ailleurs qu'Eschyle était c'est le plus vieux, hein, des trois. Vous savez, les trois grands tragédiens, vous avez d'abord Eschyle, ensuite Antigone, ensuite Euripide. Euripide qui a un théâtre beaucoup plus proche du nôtre, où l'aspect religieux, tout ça, a disparu. Chez Eschyle, au contraire, c'est drôlement présent. Hein. C'est vrai qu'il y a une différence considérable en quelques années. Hein, en quelques années. Eh bien, vous vous disiez, je suis perdu votre le film.
Non, c'était le message.
Oui.
Plus favoriser plutôt la justice humaine.
Ah ben oui, oui, tout à fait. Oui, et en même temps, c'est angoissant. Pour prendre la mesure de la responsabilité humaine.
Et l'aréopage est fait de citoyens sélectionnés les plus...
Alors, là, c'est dans la pièce. Bon, c'est vrai qu'il y a une allusion à ce qui s'est passé. Moi, je vous ai fait un petit point historique. Il y a une allusion dans la pièce à ce qui s'est passé à Athènes auparavant l'apparition de cette pièce, avant la représentation de cette pièce. Il y a un clin d'œil, si on peut dire, à cette transformation de l'aéropage qui était dans le cadre de l'aristocratie, hein, de la cité aristocratique athénienne qui précédait la démocratie, qui était un lieu de décision politique. L'aéropage avait une fonction très importante, ne se contentait pas d'être un tribunal. Et puis, la démocratie athénienne, effectivement, a diminué ses prérogatives. Il n'est désormais plus qu'un tribunal qui juge des affaires criminelles. Et c'est l'Assemblée populaire qui décide du sort de la cité. Alors, il y a ça derrière. Mais bon, on peut très bien ne pas le savoir. On peut très bien ne pas le savoir. Et la tragédie, finalement, ne nous indique rien de précis à ce sujet. On voit simplement que ce sont des hommes qui délibèrent ensemble dans ce tribunal, et qui vote à l'issue de la délibération sur le sort, au fond, du criminel qui est jugé. Voilà. Oui.
Si on assiste à la naissance du politique, on assiste aussi à la naissance du droit.
Ça va ensemble.
Parce que avec déjà, il semble-t-il, déjà une notion d'indépendance du droit par rapport au politique.
Alors, il faut faire attention parce que la cité athénienne, c'est pas une société dans laquelle vous avez un État. Il n'y a pas d'État séparé de la société. Parce que dans nos sociétés, alors, l'État c'est une structure qui surplombe la société. Il y a même une séparation entre l'État et la société. La société, c'est le domaine des activités privées, qui peuvent être collectives, mais c'est le domaine des échanges économiques, sociaux, etc. L'État, c'est l'organisation politique du pouvoir qui chapeaute la société. Ça n'existe pas chez les Grecs. La cité, c'est une grande famille collective, si on peut dire. Il y a une participation directe des citoyens à la vie de la cité. Il n'y a pas de fonctionnaires qui soient complètement, d'État qui soit complètement séparé, si vous voulez, de la société. Même si, bien sûr, pour certaines assemblées, on admet qu'il faille désigner pour une certaine durée un certain nombre de gens, pour leurs compétences, notamment pour l'exercice de l'armée. L'armée, par exemple, c'est une affaire collective. Tous les citoyens sont potentiellement des militaires, des soldats. Mais pour commander, il faut bien effectivement faire appel à des gens un peu expérimentés. Mais tout de même, ils sont désignés. La magistrature dépend toujours en dernière instance, finalement, de l'Assemblée populaire. Donc il n'y a pas de superstructure, vous voyez, de l'État qui soit au-dessus de la cité. La cité s'auto-organise en quelque sorte de manière collective. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, non ?
Oui et non. Oui, bien sûr, mais ce qui me faisait dire ça, c'était quand même le fait qu'Athéna dise qu'il y a besoin d'une décision qui soit... au-delà de la réflexion humaine, au-delà de la réflexion divine, c'est-à-dire une sorte d'une autre entité de décision.
Alors voilà, ni Dieu, je n'ai pas dit ni Dieu ni humain. Non, mais c'est-à-dire que elle ne veut pas d'homme qui juge, qui soit investi d'une sorte de mission divine, comme c'était le cas. dans la justice antérieure, avec les rois de la cité archaïque, les rois qui exerçaient leur pouvoir dans la Grèce archaïque, c'était au fond des chefs de famille, qui avaient une sorte de mission quasi divine, quoi. Ça, c'est fini. Ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit des hommes. Il ne faut pas non plus que ce soit des dieux, au sens où il ne faut pas que la justice soit vécue comme une affaire religieuse. Donc, il faut une forme de laïcisation, si on peut dire, de la justice. Voilà. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est tout de même un sacré pas, croyez-moi. C'est un peu extraordinaire de penser les choses de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que l'Orestie a cet avantage de nous faire découvrir notre propre fonctionnement comme un fonctionnement complètement insolite, original. Parce que, mettez-vous à la place des Grecs, c'est hallucinant qu'on puisse instituer un tribunal. C'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, nous, ça va de soi, mais pour eux. Vous voyez, comment on en est venu là? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aversion du regard qui nous permet de voir nos propres institutions d'une manière tout à fait originale. Oui.
Et Apollon, lui, il n'a pas tout compris, puisqu'il reste dans le domaine du divin, avec cette idée du sacrifice
tout à fait.
D'un porcelet. Oui. Moi, ça me fait quand même penser à très fort, même si ça n'est pas la même chose, mais enfin à l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça n'est pas un porcelet, c'est un agneau. Ça n'est pas la souillure, c'est le péché. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, la dernière victime, il n'y en aura pas d'autre après.
C'est plutôt le christianisme qui a repris des thèmes qui étaient déjà en vigueur ce sujet-là. Je me suis référé à l'explication de René Girard. C'est vrai qu'il pensait que, effectivement, la pratique du sang purificateur, mais je me suis peut-être trompé, était une bonne façon d'éliminer, d'éviter, de mettre un terme à la logique de la vengeance. Je trouve que c'est une explication qui tient debout. Mais je trouve aussi. Il n'y a pas que ça dans cette sacrifice. Il y a aussi tout le chemin expiatoire d'Oreste, et qui correspond à ce que je vous disais la dernière fois sur la justice familiale des Grecs. Vous savez, je parlais surtout de la fonction expiatoire du châtiment comme fonction de purification. Il fallait se purifier pour pouvoir réintégrer la cité. Ou la cité vous bannissez pour se purifier de vous, ou vous purifiez pour pouvoir la réintégrer. Et là, c'est à ça qu'on assiste aussi, surtout avec l'intervention d'Apollon. C'est ça qu'il exige d'Oreste.
Et ce que dit aussi René Girard, c'est qu'en fait, les chrétiens n'ont pas compris le vrai message de Jésus. Mais c'est autre chose.
Oui. Mais ça, je rentrerai pas dans son discours.
Innocent,
oui.
Et je paye pour les autres et vous.
Oui, c'est sûr qu'il inscrit.
Garde-le en mémoire pour l'éternité.
Tout à fait, il inscrit sa réflexion sur le christianisme. Il est chrétien. Il inscrit sa réflexion sur le christianisme dans la continuité de ses considérations sur le sacrifice, c'est sûr.
Oui.
C'est clair. Mais ça, je ne vais pas aborder cette question-là.
Non,
c'est autre chose, et c'est vrai que c'est une lecture très stimulante, très intéressante, surtout qu'il s'appuie beaucoup sur des textes littéraires, sur un tas de choses, sur des textes, sur les grands textes de l'Antiquité, sur... qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec son analyse, c'est vraiment intéressant. Ouais. D'autres questions Alors, je suis désolé, il faudra que vous attendiez le 24 novembre pour avoir la suite. Mais j'articulerai ça avec autre chose. Ce que je pense évoquer après, c'est, je vous disais, ce que je voudrais aborder avec vous après, c'est la réflexion d'Aristote, qui me paraît très intéressante, à plus d'un titre. Après, on ira vers autre chose. Hein, Beccaria, Foucault, et d'autres. Bon, ben, on peut dire que la séance est close. Voilà.